Bonjour chers auditeurs, voici l'émission Visage de la Bible. Catherine Mann au micro pour vous proposer de feuilleter la Bible comme un album de famille, celui d'une grande famille spirituelle, où nous allons nous attarder sur quelques visages d'hommes et de femmes, en choisissant plutôt de mettre en lumière ceux qui ne sont pas très connus, mais qui méritent pourtant de l'être, ou en tout cas, qui méritent que l'on s'y intéresse. Car dans la Bible, tout a son importance. Je vous propose pourtant de nous arrêter aujourd'hui sur un visage qui apparemment est bien connu, celui du prophète Samuel. Mais en fait, ce que l'on connaît surtout de Samuel, c'est son enfance et le récit de sa vocation précoce qui est souvent présenté au catéchisme pour inspirer la prière des enfants. Mais Samuel a eu une longue vie, et il aura une importance majeure dans l'histoire d'Israël. Nous allons donc regarder comment il va se transformer au cours des ans. Commençons d'abord par rappeler que Samuel est né d'une mère stérile. Sa mère Anne a longuement prié pour pouvoir guérir de sa stérilité, parce qu'à l'époque c'était considéré comme une véritable malédiction. C'est donc un enfant miraculeux, ce qui dans la Bible laisse bien sûr présager un destin hors du commun. Et quand Anne, sa mère, fut exaucée, sa joie fut telle qu'elle décida de consacrer son fils au service de Dieu. D'ailleurs, le nom qui fut donné à l'enfant, Samuel, signifie, on hésite, soit son nom est Dieu, soit Dieu l'a entendu, en tout cas ça le désigne comme un être à part qui vivra dans la proximité et l'intimité de Dieu. Il faut dire que déjà le père de Samuel, Elkana, était issu de la tribu des Lévites, qui traditionnellement sont destinés au service liturgique. C'est donc tout naturellement que le petit enfant va aller vivre auprès du grand prêtre, qui s'appelle Élie, et se mettre à son service dans le temple, qui à cette époque était encore à Silo. Ses parents venaient lui rendre visite chaque année au moment de l'offrande d'un sacrifice annuel. Et le texte biblique nous dit, donc nous sommes dans le premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 21, « Le petit Samuel grandissait devant le Seigneur. » Voilà, c'est là, comme nous le raconte le chapitre 3 ensuite, de ce premier livre, qu'eut lieu la vocation de Samuel. Je vous lis chapitre 3, verset 3. « Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu. » Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Mais cet appel de Dieu a dû se répéter trois fois avant que Samuel comprenne que c'était Dieu lui-même qui lui parlait et non pas le grand prêtre. Lisons ensuite, toujours chapitre 3, verset 11. « Le Seigneur dit à Samuel « Voici que je vais accomplir une chose en Israël à faire tinter les oreilles de qui l'apprendra ». Ce jour-là, je réaliserai contre le prêtre Élie tout ce que j'ai dit au sujet de sa maison du début à la fin. Ah. Voilà donc la première mission de Samuel, encore enfant. Il doit aller annoncer au grand prêtre Élie tous les malheurs qui vont s'abattre sur lui et ses fils à cause du mauvais comportement de ceux-ci qui méprisaient Dieu. Et Élie aussi, parce qu'il n'avait pas été capable de les corriger. Alors, dure responsabilité pour le petit acolyte. Hein, il doit aller critiquer son patron. Et ensuite, il va devoir progressivement s'imposer comme la grande référence spirituelle en Israël. Lisons chapitre 3, versets 19 et 21. « Samuel grandit. » Le Seigneur était avec lui et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur. Le Seigneur continua de se manifester dans le temple de Silo, car c'est à Silo que le Seigneur se révélait par sa parole à Samuel. Et la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Voilà, à partir de là, la vie de Samuel devient pleinement celle d'un prophète, c'est-à-dire d'un homme inspiré par Dieu et qui parle en son nom. Mais son rôle est plus large encore puisqu'il endosse aussi les fonctions de juge, ce qui, à cette époque, suppose aussi des responsabilités de dirigeant, somme toute politique, dans un système encore théocratique. Le texte biblique raconte ensuite un terrible conflit avec les Philistins qui sont victorieux et en profitent pour dérober l'Arche d'Alliance avec l'idée de s'approprier la puissance du Dieu d'Israël. Ce qui ne fonctionne évidemment pas, bien au contraire, mais pendant toute cette période, Israël est affaibli et souffre loin de son Dieu. Et pendant ce temps-là, Samuel va essayer d'intercéder et d'intervenir. Lisons alors là au chapitre 7 du premier livre de Samuel. « Alors Samuel s'adressa à toute la maison d'Israël, disant « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez au Seigneur, écartez du milieu de vous les dieux de l'étranger et les Astartés. Attachez vos cœurs au Seigneur et servez-le lui seul. » Alors il vous délivrera de la main des Philistins. Et les fils d'Israël écartèrent les Baals et les Astartés et ne servirent plus que le Seigneur seul. Donc là, on peut remarquer que les difficultés auxquelles Samuel se trouve confronté, c'est qu'il faut purifier la vie religieuse d'Israël qui se compromet avec des religions locales des Cananéens. Et nous comprenons là que les agressions des ennemis, ici les Philistins, sont en fait le résultat des déviances religieuses d'Israël qui les éloignent de leur Dieu. Lisons ensuite donc chapitre 7, verset 5. « Samuel dit, « Rassemblez tout Israël à Mispa et je prierai pour vous auprès du Seigneur. » Ils se rassemblèrent donc à Mispa. Ce jour-là, ils jeûnèrent et déclarèrent en ce lieu « Nous avons péché contre le Seigneur » et Samuel jugea les fils d'Israël à Mispa. Voilà, il s'agit donc d'un jugement de Samuel pour amener Israël à prendre conscience déjà de son péché, de l'amener au désir de conversion. Et il va aussi devoir offrir un sacrifice, le sacrifice d'un agneau. Donc il y a plusieurs fonctions. Pendant cet holocauste, cette cérémonie, les Philistins vont venir attaquer Israël, pensant profiter d'un moment de faiblesse. Alors la prière de Samuel va se faire plus intense, et Dieu viendra enfin soutenir Israël, qui va réussir à vaincre l'adversaire philistin. Donc nous lisons à la fin du chapitre 7, au verset 13, « Les Philistins durent s'incliner, ils ne recommencèrent plus à envahir le territoire d'Israël. La main du Seigneur fut contre eux durant toute la vie de Samuel. » Donc on voit que la personne de Samuel instaure une sorte de période de paix, qui tiennent les Philistins à distance, ils devront même restituer certaines villes qu'ils avaient prises, et une partie du territoire ennemi fut même annexée, nous dit le verset 14. Ensuite, le chapitre se conclut, je vous lis, « Samuel jugea Israël tous les jours de sa vie. Il partait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mispa, et il jugeait Israël en tous ses lieux. Il rentrait ensuite à Rama, car c'est là qu'il avait sa maison. C'est là qu'il jugeait Israël et il y construisit un autel au Seigneur. » Nous voyons donc que le rôle de Samuel est immense. Trois fonctions. Il doit maintenir la pureté de la foi en Israël, faire monter vers Dieu les sacrifices et la prière pour son peuple, mais aussi assurer la paix politiquement sur le territoire en tenant les ennemis à distance. Il est à la fois juge, prophète, et prêtre, pourrait-on dire, en tout cas dans certains exercices de sacrifice.
Radio Grand Ciel.
Reprenons la lecture du premier livre de Samuel au chapitre 8, où commence une nouvelle étape dans la vie du prophète. De très nombreuses années ont passé et Samuel est maintenant devenu vieux. Lisons les premiers versets de ce chapitre 8. Devenu vieux, Samuel établit ses fils comme juges en Israël. Son fils aîné s'appelait Yoël, le second Avia. Ils étaient juges à Beer-Sheva. Mais ses fils ne marchèrent pas sur ses traces. Dévoyés par l'appât du gain, ils acceptèrent des cadeaux et firent dévier le droit. Ah, quelle ironie du sort! Rappelons-nous que la première mission de Samuel encore enfant fut de dénoncer les malversations des fils du grand prêtre Élie, qui entraînèrent leur destruction ainsi que celle de leur père jugé coupable à cause de son inertie. Et voilà que ses propres fils se sont aussi détournés du droit chemin. Alors que va-t-il se passer pour eux? Et pour Samuel lui-même, vont-ils aussi subir le même sort tragique à cause de la colère de Dieu? En fait, non. Voyons déjà ce que le texte biblique nous dit ensuite, verset 4 du chapitre 8. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent trouver Samuel à Rama et lui dirent « Te voilà devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Alors maintenant, donne-nous un roi pour nous juger, comme toutes les nations. » Il déplut à Samuel qu'ils aient dit « Donne-nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. » Et Samuel intercéda auprès du Seigneur. Arrêtons-nous là un instant pour réfléchir au problème devant lequel Samuel se trouve. En fait, sa fonction et son autorité sont contestées à cause de la réputation de ses fils. Et comme il y a eu des précédents dans l'histoire des juges et aussi l'échec du grand prêtre Élie, le peuple d'Israël a perdu confiance dans le système politique à l'œuvre, donc les juges, pendant toute cette période. C'était pourtant une forme de gouvernement très souple, laissant toute l'autonomie et la liberté d'organisation à chaque clan, où on ne faisait en fait appel aux juges qu'en cas de problème ou de nécessité, le juge étant mis en place par Dieu à qui finalement chacun devait rendre des comptes. Donc c'est un système théocratique basé sur la foi et l'obéissance librement consentie de chacun à la loi de Dieu et surtout loi mise en pratique, en tout cas en principe. Cette organisation faisait appel à la responsabilité de tous et au libre consentement collectif aux lois transmises par Moïse, et c'était au juge de veiller à l'application réelle des lois, aussi à trancher en cas de litige et à résoudre les problèmes en relation directe avec le Dieu d'Israël. Mais alors que se passe-t-il si les juges eux-mêmes sont corrompus? Voilà ce que pose comme question le peuple hébreu, qui ne croit plus à la valeur du système. Ils ne font plus confiance aux juges. Même à Samuel, finalement, médiateur de la loi de Dieu, mais avec quelle fidélité, voilà. Et surtout, le fonctionnement politique des autres nations autour leur paraît finalement meilleur et plus efficace. Ils ne croient plus à la valeur de l'élection particulière d'Israël qui les rend différents et plus proches de Dieu. Au lieu d'être un modèle pour les autres nations, ils désirent maintenant devenir comme elles, se fondre dans l'uniformité politique qui leur fait envie, c'est-à-dire la soumission à un roi. Samuel est déçu et il se tourne donc vers le Seigneur. Et que lui répond le Dieu d'Israël? Pas de critique du tout. lisons 1er livre de Samuel, verset 7 du chapitre 8. Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Comme ils ont agi depuis le jour où je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, ils m'abandonnent pour servir d'autres dieux, et ainsi ils agissent de même envers toi. Maintenant donc, écoute leur voix, mais ne manque pas de les avertir. Apprends-leur comment gouvernera le roi qui règnera sur eux. Alors, nous voyons ici comment Dieu agit envers les hommes, non pas en s'imposant à eux par la force, mais en respectant leur liberté. À partir de là, la fonction du juge se réduit, si l'on peut dire, à sa dimension politique, puisque Samuel ne peut plus qu'avertir, prévenir de ce qui va arriver si Israël fait ce mauvais choix. Et de fait, la suite du chapitre 8 donne tout le détail de ce que Samuel va annoncer au peuple à propos de l'autorité exercée par le roi. Donc, en résumé, parce que c'est un long chapitre, il prendra le roi, les fils pour en faire des soldats, il prendra les filles comme domestiques, il prendra les champs, les bonnes terres et s'appropriera les cultures, il lèvera des impôts, il prendra les serviteurs et le bétail pour son propre service, et même le peuple deviendra ses esclaves, dit Samuel. Donc, Samuel dresse un tableau extrêmement noir en décrivant la royauté comme système de gouvernement. Il ne cache aucun des travers de l'autorité absolue que s'arrogent les rois. Cela aurait peut-être dû faire réagir le peuple, leur faire un peu peur et peut-être même les faire changer d'avis. Mais non, pas du tout. Au contraire, le texte dit ensuite, verset 19, « Mais le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, c'est un roi que nous aurons, nous aussi, comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il sortira à notre tête et combattra nos combats. » Voilà. Devons-nous nous étonner de ce peuple qui fait le choix d'un régime autoritaire, rassuré à l'idée d'être alors comme tout le monde, plutôt que de rester dans un régime de liberté, mais qui engage la responsabilité de chacun dans l'obéissance aux lois divines. En tout cas, nous voyons encore aujourd'hui qu'un régime autoritaire continue de séduire, en tout cas beaucoup de monde, parce qu'il fait moins peur apparemment qu'une liberté qui demande trop d'engagement personnel. Mais ici, le problème est plus compliqué, parce que Samuel a sans doute une part de responsabilité aussi dans le dévoiement de ses fils. Et c'est à cause de cela que le peuple hébreu a perdu un peu confiance en lui. Or, Dieu ne semble pas lui en tenir rigueur. Contrairement à ce qui s'est passé avec le grand prêtre Élie, personne ne sera puni, ni Samuel, ni ses fils. La Bible ne donne pas d'explication pour cette différence de traitement. Samuel est-il moins responsable que le prêtre Élie, peut-être ? Bref, devant l'obstination du peuple d'Israël, Samuel s'adresse à Dieu, chapitre 8, verset 21. Samuel écouta toutes les paroles du peuple et les répéta aux oreilles du Seigneur. Le Seigneur dit alors à Samuel, « Écoute leur voix et donne-leur un roi. »
Radio Grand Ciel.
Continuons donc de nous intéresser au visage de Samuel, juge et prophète en Israël, qui vient de recevoir de Dieu l'ordre de donner maintenant un roi à Israël pour répondre aux exigences du peuple. Son rôle maintenant va donc être de choisir ce roi et de mettre en place la royauté. Le choix se fixa dans la tribu de Benjamin sur un fils de Kish, un vaillant homme dont le fils se nommait Saül. Et nous savons, grâce au chapitre 9, verset 2, que c'était un beau garçon, qu'aucun des fils d'Israël ne le valait. Il dépassait tout le peuple de la tête et des épaules. Donc, beau, grand et fort. C'est Dieu lui-même qui avait orienté le choix de Saül, nous le lisons au verset 10. Le Seigneur avait averti Samuel, disant « Je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras comme chef de mon peuple Israël, et il sauvera mon peuple de la main des Philistins. » Quand Samuel aperçut Saül, aussitôt le Seigneur l'avertit « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui exercera le pouvoir sur mon peuple. » Alors, situation étrange quand même que ce choix guidé par Dieu, alors qu'en fait la royauté n'est pas voulue par Dieu. Mais elle a été accordée avec plutôt amertume au peuple hébreu parce qu'il exigeait. Mais même si Dieu n'est pas satisfait de la situation, il n'abandonne pas son peuple et intervient pour trouver un roi qui convient. Car en principe, c'est Dieu qui doit rester le vrai souverain de son peuple. Lisons ensuite, donc au début du chapitre 10 du premier livre de Samuel. Samuel prit une fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saül, puis il l'embrassa et lui dit « N'est-ce pas le Seigneur qui te donne l'onction comme chef sur son héritage ?» Donc c'est vraiment Dieu à l'œuvre et cette onction va permettre un changement spirituel d'ailleurs en Saül, après quoi Samuel ira le présenter au peuple comme leur roi et il sera bien sûr acclamé. Et nous voyons immédiatement après que sa charge sera surtout en fait de faire la guerre contre les ennemis environnants. Ça n'arrête pas. Toutes les tribus, toutes les petites nations autour. Et cela nous mène au début du chapitre 12 de ce premier livre de Samuel, chapitre qui est tout entier consacré à un grand discours, cette fois d'adieu déjà, de Samuel, qui se sent vieillir et sa mort assez proche. Et il y fait d'abord l'examen de toute sa vie devant le peuple pour leur demander l'approbation de son administration et s'appuyant sur leur reconnaissance, en profite pour rappeler leurs fautes. Donc lisons chapitre 12 à partir du verset 13. « Maintenant donc, voici le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. » Et voici que le Seigneur vous a donné ce roi. Si vous craignez le Seigneur, si vous le servez, si vous écoutez sa voix sans vous révolter contre les ordres du Seigneur, alors vous-même et votre roi, vous continuerez à suivre le Seigneur votre Dieu. Mais si vous n'écoutez pas la voix du Seigneur, si vous vous révoltez contre les ordres du Seigneur, la main du Seigneur sera contre vous, comme elle le fut contre vos pères. Comprenez donc et voyez toute la grandeur du mal que vous avez commis en demandant pour vous un roi. » Et enfin, à la fin du discours d'adieu de Samuel, je continue de vous lire. « En ce qui me concerne, il serait abominable de pécher contre le Seigneur en cessant d'intercéder en votre faveur. Je vous enseignerai le chemin du bien et de la droiture. Seulement vous, craignez le Seigneur et servez-le en vérité de tout votre cœur. Voyez en effet comme il s'est montré grand envers vous. Mais si vous faites le mal, vous serez anéantis, vous et votre roi. » Voilà, mais après ce grand discours, fin du chapitre 12, Samuel n'est pas encore mort du tout. En fait, on aura sa mort qu'au début du chapitre 25, donc il y a encore un bon bout d'histoire. Entre-temps, Saül, à travers toutes les guerres qu'il conduit, va commettre un premier péché qui lui vaudra la colère de Samuel, qui lui dit « Tu as agi comme un fou, tu n'as pas gardé le commandement du Seigneur ton Dieu. » Le Seigneur aurait établi pour toujours ta royauté sur Israël, mais maintenant, ta royauté ne tiendra pas. Oh, voilà. Ça se passe en pleine guerre contre les Philistins, qui est tout de suite suivie d'une guerre contre des Amalécites, au cours de laquelle Saül va de nouveau désobéir au commandement du Seigneur. C'est pourquoi Dieu, cette fois, vient parler à Samuel. Nous sommes au chapitre 15, à partir du verset 11. « La parole du Seigneur fut adressée à Samuel. Je me repens d'avoir fait de Saül un roi, car il s'est détourné de moi, il n'a pas accompli mes paroles. » Alors Samuel fut bouleversé et cria vers le Seigneur toute la nuit. Voilà, en effet, maintenant Samuel doit aller s'expliquer avec Saül et lui annoncer la décision de Dieu. Je vous cite, « Le Seigneur t'a arraché la royauté d'Israël aujourd'hui et il l'a donnée à un autre. » Et on voit là Samuel se désoler du sort de Saül, plein de compassion. Il pleure et se lamente, au point que nous lisons au début du chapitre 16, « Le Seigneur dit à Samuel, « Vas-tu longtemps encore pleurer Saül, alors que moi-même je l'ai rejeté et qu'il ne sera plus roi sur Israël ?» Donc Samuel doit couper le cordon, se ressaisir et recommencer tout le processus de mise en place d'un nouveau roi. Alors là, c'est bien connu, hein, cette fois il s'agit de David, sur qui Dieu fixera la main, David qui lui deviendra le modèle idéal du grand roi. Et pendant 9 chapitres ensuite, nous pouvons lire l'ascension, l'histoire de l'ascension de David vers le pouvoir royal, qui n'est pas simple, c'est un combat acharné contre Saül, qui lui ne veut pas renoncer. Et donc, ainsi, nous arrivons au début du chapitre 25, où nous lisons « Samuel mourut, tout Israël se rassembla chez lui à Rama. » Et puis, c'est tout. On a de nouveau toute une histoire de guerre. Et on pourrait penser que là s'arrête l'histoire de Samuel, mais non. 3 chapitres plus loin, au chapitre 28, verset 3, on lit de nouveau « Samuel était mort ». Tout Israël avait célébré son deuil et l'avait enseveli à Rama, sa ville. Et c'est alors qu'en plein combat contre des Philistins, Saül, toujours en place et qui s'accroche au pouvoir, se trouve submergé par l'angoisse et décide de faire une chose totalement interdite, de faire appel à un intermédiaire, une nécromancienne. Une femme qui fait parler les morts, et que va-t-il lui demander ? D'appeler Samuel à la rescousse. Et voilà, par cette nécromancienne, Samuel, de nouveau, parle. Samuel dit à Saül, « Pourquoi as-tu troublé mon repos ? Et pourquoi m'interroges-tu alors que le Seigneur s'est écarté de toi ?» Samuel n'est pas content d'être dérangé. Et c'est ainsi que depuis l'au-delà, Samuel doit encore intervenir pour finalement annoncer à Saül que les Philistins vont le vaincre et que lui et ses fils vont être tués dans ce combat. Et c'est seulement à ce moment-là que Samuel pourra aller reposer en paix, confiant la royauté à David. Et moi aussi, maintenant, je peux vous dire au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.